beaucoup de joie que je viens aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur avec vous. C'est toujours aussi un privilège de pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur. Pour partager sa parole. Alors, je vais essayer de vous donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans le cadre de ce thème général, Dieu notre essentiel. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de vivre dans la dépendance de Dieu. Et je ne vais sûrement pas pouvoir vous donner tout. On va pas épuiser le sujet en une demi-heure, ou même moins, ou un peu plus, mais je pense que quand même que le Seigneur veut nous dire quelque chose pendant le temps qu'il nous accorde pour écouter sa parole aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre notre cœur, notre vie, pour que sa parole puisse entrer et rester, et puis croître en chacun de nous. Au risque de répéter ce qui a été déjà dit par les autres avant moi, je voudrais d'abord parler un peu de ce mot qui est « vivre », parce que c'est important et c'est essentiel, la vie. C'est quoi la vie en fait? Et d'emblée, je voulais vous dire que j'aimerais parler de la vie et de vivre selon ce qui a été dit et par la parole de Dieu en fait. Parce qu'il y a beaucoup de conception de la vie selon les différentes tendances des philosophes, des religions. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la vie? C'est quoi en fait la vie? C'est quoi vivre? Alors, vivre, il y a quatre éléments dont je voulais vous dire par rapport à la vie que j'ai trouvé dans la Bible. D'abord, vivre, c'est avoir reçu un souffle de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 2 et verset 7. Voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, vivre, c'est avoir reçu ce souffle venant de Dieu. Et donc, je voudrais aussi marquer ce point qui est que dans toute la création, Dieu a dit quelque chose et tout a existé, sauf pour l'homme. Pour l'homme, Dieu a fait une action. Dieu a travaillé en quelque sorte. Avec sa parole, il a travaillé. Donc l'homme, c'est déjà quelque chose de spécial par rapport à tout ce qui est création de la part de Dieu. Mais la vie qu'il a donnée, c'est quelque chose qui vient de lui, c'est un souffle venant de Dieu. Donc vivre, c'est recevoir ce souffle, conserver et l'avoir en soi. C'est ça la vie, c'est ça vivre d'après la parole de Dieu. Deuxième élément, vivre, c'est prendre sa place dans l'univers, le lieu et le temps que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est prendre une place dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas être partout, on ne peut pas être en tout temps sur cette terre, mais il y a une place bien déterminée, un moment bien déterminé où Dieu nous a mis sur terre. Et il faut prendre cette place. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu aussi, Genèse chapitre 2, verset 8. C'est écrit, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » C'est ça aussi vivre, être à sa place. Là où on est. On sent qu'on est là parce que Dieu nous a mis ici. Et troisième élément dans la vie, c'est travailler, agir, interagir, être actif dans ce milieu dans laquelle Dieu nous a placés. C'est ça aussi vivre. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est écrit que Dieu bénit les hommes, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc voilà, Dieu a donné ce souffle pour que l'homme vive, qu'il ait une place dans ce que Dieu a déjà préparé d'avance, mais que là, il travaille, il agit, il fait quelque chose, il bouge, il domine, il assujettit l'univers, la création. Et quatrième élément dans ce qui est vivre, c'est se montrer, se comporter en tant que représentant de Dieu. Dieu nous a créés à son image, c'est ce qui est dit dans chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine après. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons normalement, dans toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut que nous soyons ses représentants, que ce soit l'image de Dieu qu'on voit à travers notre vie. Donc ça aussi, c'est ça, vivre. Et déjà, à partir de ces quatre éléments, on peut déjà dire que quelqu'un qui doit vraiment et qui veut vraiment vivre doit refléter Dieu et doit être en dépendance totale avec son Créateur. Mais nous savons que très peu de temps après que l'homme a été créé, il y avait un élément qui ne devait pas être dans la vie de l'homme qui était entré. Bien sûr, nous le connaissons tous, c'est le péché. L'homme, sa vie que Dieu lui a donnée, n'a pas été dépendant totalement de Dieu. Il a permis qu'un élément étranger, parasite, vienne entrer dans sa vie. Et c'est ça le péché. Le péché, en fait, c'est de ne pas vouloir obéir en toute chose à Dieu, mais vouloir aussi obéir à d'autres choses ou à d'autres créatures ou à d'autres éléments. Et c'est ça qui a causé la chute de l'homme. Alors, on sait que ce péché est entré dans la vie de l'homme. Malgré cela, nous savons tous que tous ces éléments de la vie étaient encore dans l'homme. Il pouvait travailler, il pouvait prendre sa place dans l'univers, sauf une chose. Il n'était plus le représentant de Dieu. Il ne représentait plus Dieu dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il pensait. C'était ça le problème de l'homme avec le péché. Le péché a pourri sa vie. Le péché a détruit cette relation de dépendance avec Dieu. Il pouvait encore faire beaucoup de choses, mais il ne pouvait plus représenter Dieu, malheureusement. Mais ce qui est merveilleux dans ce que Dieu fait, c'est que d'abord, le salaire du péché, normalement, c'est la mort. La mort aurait pu être dans la vie de l'homme tout de suite après qu'il a péché, mais Dieu, dans son amour, a voulu racheter cet homme qu'il a créé, qui Cet homme qu'il a créé pour l'éternité, en fait. Parce que tout homme créé va vivre pour l'éternité. La place après la vie sur terre, ça dépend de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a décidé, mais après, on vivra toujours pour l'éternité, soit dans la vie éternelle avec le Seigneur, soit dans la perdition, disons, éternelle. Mais toute personne créée vivra éternellement. Et ça, Dieu l'a gardé. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme soit perdu à jamais, donc il a péché, mais c'est lui-même qui a tué un animal pour qu'il y avait un sang, du sang qui soit versé. On a chanté tout à l'heure, on a pris la Sainte Cène, et le sang versé était déjà pour sauver Adam et Ève de la mort à ce moment-là, pour qu'ils puissent continuer à vivre, pour qu'ils puissent jouir, en fait, du salut que Dieu a déjà préparé pour eux et que Dieu prépare déjà pour toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. C'est ça l'amour de Dieu. Il a voulu et il veut encore jusqu'à ce que le monde soit détruit. Il veut que l'homme soit sauvé. Il veut le rétablissement de cette relation avec lui. Donc, il ne va pas être perdu s'il accepte ce que Dieu a préparé pour lui. Donc voilà, ça tout à l'heure, on a déjà beaucoup parlé de Jésus qui était mort à la croix. Son sang, c'est pour la rémission de notre péché. Et par la foi en Jésus-Christ, on peut de nouveau être en relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes aussi en vie, d'ailleurs, pour que nous puissions rétablir cette relation avec notre Seigneur. Et comme celui qui a présidé tout à l'heure a dit, j'insiste aussi sur le fait que si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous avez là maintenant quelque chose dans la pensée, dans le cœur, comprenant que Jésus est mort pour vous et qu'il veut rétablir la relation avec Dieu, vous et Dieu, alors c'est tout moment, à chaque fois que vous entendez cela, c'est le moment de Dieu pour vous décider à accepter ce salut, cette main tendue de Dieu pour vous sauver. Alors, j'aimerais juste rajouter avec cela, pour cela, ce que dit la Bible dans Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 52 jusqu'au verset 58. Voici ce que dit Jésus, c'est lui-même qui le dit. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi être manger la chair et boire le sang de Jésus? C'est vraiment accepter Jésus et dépendre sa vie, ma vie dépend de la vie de Jésus. C'est ça, en fait, boire son sang, manger sa chair. Alors, c'est là la vie, celui-là a la vie, il a dit. Mais pas seulement la vie ici sur terre, mais chaque fois, dans beaucoup de fois, quand Jésus parle de la vie, il parle de la vie aussi, de la vie éternelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout homme, toute personne qui existe, existera éternellement. Et souvent, Jésus met en relation la vie sur la terre et la vie qui continue pour l'éternité. La vie que Jésus, que Dieu veut nous donner, ce n'est pas seulement une vie sur terre. Il peut le donner aussi, il peut la donner aussi cette vie sur la terre, mais il veut que cette vie continue avec lui pour l'éternité. Alors, même aussi pour la vie sur la terre, il faut être en dépendance totale avec lui. Et comment Paul le dit quand il écrit dans les Épîtres? Paul le dit en Galates chapitre 2, verset 20, par exemple. Lui, il a osé le dire parce que c'est ce qu'il vit dans sa vie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est quoi, moi? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire pour lui, mais d'après ce que je vis, moi, c'est de sentir et d'être conscient à chaque instant et dans tous les domaines de ma vie que Christ est là, que c'est lui qui dirige, qui est le maître. C'est ça, vivre avec Jésus, vivre la vie que Dieu veut que nous vivions, vivre la vie que Dieu nous a donnée. Et là, on peut vraiment être le représentant de Dieu dans tout ce qu'on est, où que ce soit, quoi qu'on fasse. En fait, c'est ça qui est vivre en dépendance avec Dieu. C'est que, d'abord moi, je sens, je suis conscient que partout et en tout temps, je suis avec Jésus, je suis avec Dieu. Mais qu'en plus, en me regardant, en me voyant, tout ce qui est autour de moi, ma famille, les plus proches, ceux qui vivent avec moi dans le quartier où je vis, là au travail, à l'école, là où je fais mes études, partout, à l'église, les gens voient, les gens peuvent sentir, les gens peuvent lire comme ils lisent un épître, que je suis avec Jésus, que Dieu est en moi et que moi, je suis en lui. C'est ce que cela veut dire, c'est ce que Paul veut dire. Je ne suis plus moi, comme disait saint Augustin, parce que saint Augustin, il était aussi, il avait une vie frivole, et une fois il était converti, il a déjà donné sa vie au Seigneur. Il était allé au marché une fois, il y avait une fille avec qui peut-être il a été avant et qui l'a vue et qui a dit « Ah, Augustin, c'est moi, tu te souviens de moi ?» Et puis Augustin, il a dit « Ah oui, vous, c'est encore vous, mais moi, je ne suis plus moi. » Jésus m'a sauvé, m'a transformé. Et puis il est parti loin de cette femme de mauvaise vie avec qui il a été avant, parce qu'il a été changé par le Seigneur. Alors, être avec Jésus partout, en tout temps, c'est ça, dépendre de Dieu dans sa vie, dans tous les domaines de la vie, être conscient que Dieu est présent et qu'il est maître, qu'il est glorifié dans tout ce qui est ma vie, qu'il est obéi dans tout ce qu'il m'a appris, c'est ça la dépendance de Dieu dans ma vie. La dépendance de Dieu n'est pas une option, c'est une obligation. Dieu nous a créés à sa ressemblance pour que nous puissions transmettre aussi partout où nous sommes cette image de Dieu. C'est ça, dépendre de Dieu. Est-ce que nous avons la capacité de le faire? Est-ce que nous pouvons le faire très facilement? Si je vous le demande, est-ce que vous pouvez dire oui? C'est très difficile, en fait. Par contre, c'est possible. Si Paul a osé dire que c'est Jésus qui vit en lui maintenant, qu'il est mort en lui-même, c'est que c'est quelque chose de possible. Et Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous ne pourrons jamais faire. Ce n'est pas un don. Vivre en dépendance totale avec Dieu n'est pas un don. C'est une grâce. Cette grâce est ouverte à tous. Mais c'est une grâce qui ne s'accomplit pas comme ça tout de suite. Mais il faut que nous nous appliquions dans le domaine de cette grâce pour que nous puissions avoir la capacité de vivre en dépendance totale de Dieu. Il faut que nous agissions, il faut que nous expérimentons, si on peut dire ainsi, il faut que nous essayions de vivre ce que Dieu nous enseigne. Et là, nous commençons à croître dans la dépendance de Dieu. Dans le thème général, je crois que les versets qui ont été pris sont dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Et là, justement, c'était écrit aussi là, sur le vidéoprojecteur, là. C'était « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ». Et ma réflexion a été que, est-ce que nous avons tous besoin de faire cette prière de demande pour le pain que nous allons manger? Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous apprend à demander le pain que nous allons manger aujourd'hui ou bien le repas que nous allons manger aujourd'hui? Parce que finalement, et c'est ça la tentation, la grande tentation pour l'homme, quelqu'un qui vit bien parce qu'il a un travail qui lui permet d'avoir tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin, puis il a hérité peut-être de richesse de ses parents, il a tout pour avoir ce dont il a besoin pour le repas, pour manger, pour se vêtir. Est-ce qu'il aurait besoin de prier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour notre vie? En fait, le Seigneur nous apprend à prier de cette manière parce qu'il veut que nous apprenions à nous dépendre de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Parce que finalement, le repas que nous prenons, ce n'est pas seulement pour être rassasié, mais c'est vraiment pour vivre. Et souvent, enfin, pas souvent peut-être, mais il y a des fois où le repas qu'on mange, si on ne dépend pas de Dieu, c'est les repas qui ne donnent pas la vie. Il y a des repas qui donnent la mort ou qui donnent la maladie. Il y a quelqu'un qui disait que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Eh oui. Il y a des repas qui ne donnent pas la vie. Alors que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre et continuer à refléter justement Dieu dans notre vie. Et voilà pourquoi il faut prier toujours pour avoir ce dont nous avons besoin, même pour manger, pour que Dieu nous donne la sagesse, les connaissances qu'il faut pour manger, afin qu'on puisse vivre pour sa gloire. Voilà pourquoi Dieu nous apprend à prier de cette manière, pour que nous puissions vraiment avoir cette attitude à travers ces petites choses, cette attitude de se conformer à Dieu, de dépendre de lui en toutes choses. Même si j'ai de l'argent, beaucoup d'argent que je n'arrive pas à dépenser toute ma vie, priez pour ce dont vous avez besoin en utilisant cet argent, même pour les repas que vous allez manger. Il y a aussi une deuxième chose que je voudrais dire pour terminer, déjà parce que le temps est déjà passé, enfin pas encore passé, mais bon. Je voudrais vous parler d'une chose dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vais vous le lire au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous sommes tous en proie à la tentation. Notre ennemi, Satan, avec les anges qui ont été avec lui et qui sont encore avec lui, essaie par tous les moyens, partout, de nous mettre en tentation. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable. Mais le problème, c'est que, en fait, il est resté quelque chose de ce que nous avons été avant, le vieil homme. Comme disait, je crois, c'était, si c'est pas Jean Calvin, c'était Luther, mais qui disait que il croyait que le vieil homme était mort quand il a été baptisé et que le vieil homme a été noyé dans l'eau du baptême. Mais il a rajouté, le bougre, il savait nager pour me rattraper dans ma vie. Alors, on est toujours tenté. Mais notre problème, c'est que, on est tellement habitué à réussir par nous-mêmes, des fois, parce qu'on fait nos études, on sent qu'on a beaucoup travaillé, on travaille, on a les salaires qui nous permettent d'acheter ceci ou cela. Quelquefois, vraiment, il semble que même sans Dieu, on peut réussir. C'est ça la tentation. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur, parce qu'il leur semble, qu'ils réussissent même sans Dieu. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que la vie pour Dieu n'est pas seulement la vie sur terre, c'est une vie continue, une vie qui continue jusqu'à l'éternité. Et même si sur la terre, ils peuvent avoir tout ce dont ils ont besoin, tout au plus, ils peuvent l'avoir jusqu'à leur mort s'ils ne sont pas avec le Seigneur. Tout au plus. Mais voilà, c'est une grande tentation pour les gens de dire cela, de croire qu'on peut réussir même sans le Seigneur. Mais alors, si vous pouvez aussi lire Jean 15, où le Seigneur parle du cep et des sarments, vous pouvez savoir que Jésus lui-même annonce et dit, « Sans être uni à moi, vous ne pouvez rien faire. » Et à une dimension spirituelle, c'est pas juste une dimension. Alors, les gens peuvent dire, mais moi, je peux aller au marché, je peux travailler, même sans être avec Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit, si vous n'êtes pas unis à moi, comme le sarment, vous ne pouvez rien faire, rien. En fait, ça veut dire que même si vous réussissez des bonnes choses, ça ne vaut rien pour Dieu, parce que ça ne vous amène pas dans le genre de vie que Dieu veut que vous ayez, ici sur terre et pour l'éternité. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien faire sans être uni, sans être en dépendance totale, comme le sarment avec le cep. Alors, pour en revenir à ce verset du Corinthiens 10, 13, Dieu veut apprendre par l'exemple, nous apprendre à travers toutes les tentations qui nous arrivent, qu'il ne faut pas se focaliser sur la tentation. il faut se focaliser sur la dépendance à Dieu. Parce que, avec nos habitudes, tout ce que les sens nous transmettent comme information, la vue, lui, la sensation, ça semble être vraiment réel, très réel, trop réel pour ne pas les accepter. Et c'est ça le problème. Et on se focalise souvent sur ces choses qu'on sent, qu'on voit, qu'on entend. Mais là, Dieu nous dit, par rapport à la dépendance à lui, c'est que, en même temps que les tentations qui nous arrivent, il y a aussi quelque chose que Dieu prépare. Et si nous sommes en dépendance de Dieu, totalement, ce n'est pas les tentations qui vont nous focaliser nos attentions, mais c'est plutôt où et quoi, qu'est-ce que Dieu a déjà préparé avec cette tentation pour que je puisse m'en sortir. Parce qu'il y a au moins deux ou trois choses qui sont là dans ce verset. D'abord, il y a les tentations, mais d'abord déjà, première chose, aucune tentation ne nous arrive sans que Dieu ne le permette. Tout ce qui nous arrive comme tentation, c'est que Dieu a permis qu'il nous arrive. Deuxième chose, si Dieu nous permet d'être tenté de cette manière, parce que les tentations ne sont pas les mêmes pour chacun de nous, c'est que Dieu sait que nous pouvons supporter, nous pouvons aller de l'avant toujours et résister à cette tentation. Dieu ne nous permet pas d'être tenté au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, avec toutes les tentations qui nous arrivent, il y a déjà quelque chose que Dieu prépare pour que nous puissions nous en sortir. Alors, être dépendant de Dieu, c'est se focaliser sur qu'est-ce que Dieu a déjà préparé par rapport à ce qui m'arrive, pour que je puisse prendre la décision d'aller dans cette direction, de faire ceci, parce que Dieu est déjà là. Alors, quand on est focalisé sur la tentation, on ne trouve pas, on ne voit pas ce que Dieu fait. Mais quand on est en dépendance avec Dieu, on cherche et on trouve toujours, parce que Dieu ne nous permet pas aussi d'être aveugle de ce qu'il fait. Dieu nous montrera toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre comme décision pour que nous puissions être vainqueurs de ces tentations-là. Voilà pourquoi nous devons croître à travers toutes ces choses qui nous arrivent, croître dans la confiance en la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu, lire toujours la parole de Dieu, apprendre, méditer et continuer et croître en cela. Voilà pourquoi il faut prier et prier toujours. Jésus nous apprend à prier sans nous lasser et toujours prier. Chose que nous n'arrivons peut-être pas encore à faire, mais que nous allons essayer d'atteindre comme objectif de notre vie aussi. Alors, en dépendance totale avec Dieu, c'est pour cela que Dieu nous a créés déjà, depuis qu'il nous a créés. Mais essayons chaque fois, à chaque occasion, de mieux nous affermir dans cette dépendance, parce que ce n'est pas un don, c'est à travers les expériences de vie que nous avons avec le Seigneur que nous pouvons croître dans la dépendance de Dieu. Voilà ce que je peux vous partager pour aujourd'hui avec ce thème qui est vivre dans la dépendance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il nous rende tous vainqueurs, victorieux dans notre vie, dans la dépendance totale à lui. Merci Seigneur. Amen.